de voir les dernières années qui ont précédé la révocation des édits de Nantes au début du règne de Louis XIV. Nous avons vu qu'en mars 1661, Louis XIV, après la mort de Mazarin, prenait seul les rênes du gouvernement. Et dès ce moment, on peut dire que les mesures anti-protestantes vont pleuvoir. La première de ces mesures, ce sera en 1668, interdiction aux pasteurs de prêcher ailleurs que dans leur lieu de résidence. Alors évidemment, ça c'est déjà un très grande entrave, parce que les pasteurs, en général, desservent plusieurs églises, plusieurs paroisses. Ils résident dans une d'entre elles, mais ils ont 2, 3, 4, 5 parfois paroisses, n'est-ce pas, à desservir, à pied, bien entendu, pour ceux qui sont les plus fortunés, à cheval. Mais donc ici, il y a à peu près, disons, 3/4 des églises qui vont tomber en désuétude si elles ne peuvent plus être desservies par les pasteurs, puisque le pasteur ne pourra plus desservir désormais que la paroisse dans laquelle il réside. Les autres, eh bien, ma foi, ils se débrouillent. Deuxième mesure, qui elle aussi va être fort restrictive, on va le comprendre tout de suite, c'est pour avoir le droit de prêcher, le pasteur doit avoir l'autorisation du clergé catholique. Rien que ça. Alors vous comprenez ce que ça représente. Certains curés, un tout petit nombre, n'est-ce pas, vont être suffisamment larges, tolérants et compréhensifs pour pouvoir donner la licence indispensable. Mais il est bien évident que la plupart d'entre eux vont utiliser cette occasion venue du ciel pour eux, n'est-ce pas, pour refuser, bien entendu, une telle autorisation. Par exemple, dans le village de Coué, où j'ai été élevé, c'est pendant cette période-là que le temple est détruit une seconde fois, puisqu'il ne peut plus être donc... il n'y a pas l'autorisation du curé du lieu pour faire le prêche. Le temple n'a plus lieu d'être et le curé parvient même à le faire détruire. Qu'est-ce qui motive ainsi Louis XIV? Bon, première chose, il y a son éducation. Louis XIV a essentiellement été élevé par sa mère, Anne d'Autriche, qui, sur son lit de mort, alors que Louis XIV était encore jeune adolescent, a fait promettre à son fils qu'il allait sévir contre la religion protestante. Anne d'Autriche est espagnole, quoique son nom pourrait nous faire croire le contraire. Les rois d'Espagne étaient aussi rois d'Autriche, c'est la raison pour laquelle elle avait le titre d'Anne d'Autriche, mais en fait était espagnole, avec toute l'intolérance, n'est-ce pas, qui était héritée des rois catholiques, de l'Inquisition et choses semblables. Et, bien entendu, le vœu d'une mourante et sacrée, d'une mère mourante, n'est-ce pas, et cela fera grosse impression sur le jeune Louis XIV, n'est-ce pas, que ce serment qu'il a fait sur le lit de mort de sa mère. Deuxièmement, il y a à la cour un parti violemment anti-huguenot qui a essentiellement pour chef de file le fameux Louvois, grand commis du roi, n'est-ce pas, et en même temps grand pourfendeur d'hérétiques. Et Louvois va avoir une alliée de poids, nous l'avons vu ensemble la dernière fois, en la personne de Madame de Maintenon, qui, petite fille d'Agrippa d'Aubigné, va être l'âme damnée du roi, dans ce sens qu'elle va plaider justement pour la révocation de l'édit de Nantes. Maintenant, il semblerait que selon certaines études récentes, le rôle de Madame de Maintenon dans la révocation des édits de Nantes ait été quelque peu surestimé. Bon, donc il y a ici une controverse entre les historiens sur le rôle exact tenu par Madame de Maintenon dans cette affaire. Quoi qu'il en soit, il est certain que quelle qu'ait été l'influence de Madame de Maintenon auprès du roi, celle-ci n'a pas été positive, en ce qui concerne les protestants du moins. Pour vous montrer, par exemple, comment étaient un peu les choses à cette période-là, ces dernières années qui ont précédé entre les années, disons, le début des années 70 et puis donc 1685, comment les choses pouvaient évoluer. Déjà en 1666, il y a une première tentative de révocation. C'est en cette occasion que précisément un certain nombre de temples vont être démolis, dont le temple de Koué, auquel je faisais allusion tout à l'heure. Mais quelques années plus tard, après la calmie, n'est-ce pas, c'est une espèce de, c'est par à coup. Une sorte d'humeur du roi, et puis soudain, une série de décrets qui pleuvent comme ça, c'est pas plus. Bon, après le roi pense à autre chose, et puis ça se tasse un peu, quoi. Alors, on fait démolir des temples, 1666, n'est-ce pas? Et puis, quelques années plus tard, n'est-ce pas, puisque le seigneur de Vérac, marquis de Coué, n'est-ce pas, est protestant, il parvient, au bout de quelques années, à non pas faire rebâtir le temple, mais à faire tenir un prêche dans une des salles de son château. N'est-ce pas? Bon, c'est plus ou moins toléré, c'est plus ou moins clandestin, mais finalement, ça se tient. Ça se tient. Maintenant, dans ces mêmes années, d'autres mesures indirectes sont prises. Il y a une espèce d'ostracisme qui va frapper les Huguenots. Ça peut se faire spontanément, sur dénonciation du curé. Des commerçants protestants vont faire faillite parce que le curé interdit que l'on commerce avec eux. Protestants vont être refusés d'embauche, n'est-ce pas, comme artisans, comme ouvriers journaliers dans des fermes ou choses semblables, tout simplement parce qu'ils sont protestants. Et déjà, à cette période, cet ostracisme économique qui va frapper les protestants fait que bon nombre d'entre eux vont commencer à émigrer. Émigrer à la fois pour des raisons religieuses, mais aussi essentiellement, pourrait-on dire, à cette période du moins, pour des raisons économiques. Il n'y a plus de travail pour eux. Et notamment dans les grandes familles, eh bien, on commence à envisager l'émigration d'un certain nombre d'enfants. Et cette émigration, n'est-ce pas, va avoir aussi une très grande importance pour l'avenir. Parce que finalement, c'est une émigration qui se fait au grand jour, tout à fait légalement, qui se fait sans précipitation, mais en même temps, si vous voulez, qui va faire que ces immigrés de la première vague, si je puis dire, vont préparer le chemin à ceux qui viendront ensuite, forcés et contraints, clandestinement cette fois-ci, après la révocation. Et si vous voulez, ils vont préparer ce que l'on va appeler le refuge protestant, dans essentiellement les pays à majorité protestante, Angleterre, Allemagne, Hollande, éventuellement Scandinavie, et puis aussi Amérique du Nord. C'est aussi le début de la colonisation de l'Amérique du Nord, sans parler d'un autre but de colonisation, d'émigration qui va être l'Afrique du Sud. Afrique du Sud qui va être donc qui était dépeuplée à cette époque-là. Ça, c'est une chose qu'on oublie de dire. Dans le problème actuel de l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud n'a jamais été peuplée avant les Blancs. Ce sont les immigrés français essentiellement, huguenots français, et qui ont été les premiers à coloniser l'Afrique du Sud. Les Noirs étaient beaucoup plus au nord, ils sont descendus au nord quelques siècles, au sud quelques siècles plus tard, alors que justement les Blancs, au contraire, eux remontaient vers le nord, si bien, si vous voulez, au bout d'un temps, eh bien, Noirs et Blancs se sont rencontrés dans une région où, bien entendu, on commençait à un certain nombre de frictions dont on a encore hérité jusqu'à aujourd'hui. Bon, ça, c'est un autre chapitre, je le laisse de côté, je le cite simplement pour mémoire. Donc, des Huguenots émigrent. Et puis, dans les dernières années qui vont précéder l'édit de Nantes, alors vont commencer d'autres pressions beaucoup plus subtiles. Ces pressions vont être des missions. Bon, nous avons vu, par exemple, les dévots, la cabale des dévots, des organisations diverses, n'est-ce pas, qui ont pour but de convertir les protestants. Alors, on emploie des méthodes pas toujours très honnêtes. Les enlèvements d'enfants, nous en avons parlé la dernière fois. Un enfant qui atteint sa grande enfance, n'est-ce pas? Ça veut dire dans les préadolescences, adolescence, petite adolescence, n'est-ce pas? Il suffit qu'il dise « je me réunis », il est considéré comme catholique, et par conséquent enlevé à ses parents et élevé dans les institutions catholiques, ça on a vu la dernière fois. Bon, c'est un type de mission assez particulier, on en conviendra. Il y a aussi donc la fameuse caisse des conversions, qui dépend justement de la cabale des dévots, grâce à laquelle on achète des conversions de protestants. Bon, les résultats sont assez médiocres, et en fin de compte, quelques pauvres airs seulement se laissent prendre à une méthode d'évangélisation aussi grossière. Alors, Louvois, n'est-ce pas, l'ennemi juré des protestants, va employer un type de mission tout à fait nouveau qui va être, alors lui, couronné de succès, qui va avoir un très très grand succès dans la catholicisation des protestants, ce qu'on appelle les missions beauté, n'est-ce pas, les missionnaires beauté, pour parler un langage plus cru, les dragonnades. Les dragonnades, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est une méthode qui va être mise à l'essai d'abord, n'est-ce pas? En 1681, en Poitou, à la demande de l'intendant du Poitou, Louis de Marcillac, et qui, donc, était quelque chose, une méthode expérimentale, qui, si elle réussit, eh bien, sera étendue à d'autres régions de France. Le Poitou, malheureusement, le Poitou protestant, va être la première région à faire la triste expérience de ces fameux missionnaires beauté. Les troupes en déplacement, c'était une règle à l'époque, n'est-ce pas, logées chez l'habitant. C'était pas très agréable, évidemment, pour les habitants que de recevoir des troupes en déplacement. Bien entendu, les troupes avaient ordre de se comporter correctement vis-à-vis de leurs logeurs. Bon, on sait ce que sont les soldats, et malgré les recommandations des officiers, les débordements étaient fréquents. Les soldats rentraient un peu éméchés le soir, avaient tendance à rigoler un peu trop avec leurs logeurs, à importuner les filles, à égorger quelques poules, à faire une petite descente dans la cave du propriétaire, à lui prendre son vin, ses victuailles et choses semblables, si bien que recevoir des troupes, c'était quelque chose qu'on envie n'envisagez jamais, n'est-ce pas, avec un enthousiasme délirant. Bon. Et précisément, cette coutume, n'est-ce pas, de faire loger le soldat chez l'habitant, va donner à Louvois une idée géniale. C'est d'obliger les protestants à recevoir ainsi des troupes, mais qui, elles, auraient le droit, finalement, de tout faire. Auraient carte blanche à partir du moment où le logeur est un protestant. Seuls les protestants seraient contraints de loger les soldats. C'était pas difficile, il y avait des villages qui étaient entièrement protestants à cette époque-là. Et là, les soldats auraient le droit de tout faire, sauf deux choses, en principe, n'est-ce pas ? Tuer leurs hôtes et violer les femmes, n'est-ce pas ? En dehors de ça, ils avaient le droit de tout faire. Ils avaient le droit de voler, ils avaient le droit de piller, ils avaient le droit de molester les habitants, jusqu'à, n'est-ce pas, ce que, excédé, ces derniers signent une abjuration en bonne et due forme que recueillaient les officiers et que ces derniers allaient présenter au curé du coin, qui immédiatement venait administrer les nouveaux convertis, les baptiser, les enregistrer comme nouveaux convertis, comme nouveaux catholiques, n'est-ce pas, et par conséquent, il y avait des conversions qui pouvaient ainsi être enregistrées. Alors, les premiers villages, n'est-ce pas, qui sont dragonnés, c'est essentiellement le village de Saint-Sauvent, en Poitou. Et alors, on assiste à des scènes absolument dramatiques, n'est-ce pas, dans ce petit village de Poitou, dans les villages environnants. On sait bien que les soldats français, n'est-ce pas, ont le goût de la plaisanterie, ils savent rire, on aime rire dans l'armée française, hein, ça on sait bien, n'est-ce pas. Alors, on se livre à d'innocentes plaisanteries, n'est-ce pas, sur les hôtes qui vous accueillent ainsi, si gentiment, et avec tant de spontanéité. Une des méthodes favorites, n'est-ce pas, des dragons, c'est de chauffer les pieds de leurs hôtes. On appelle ça chauffer les pieds. La plupart des fermes poitevines jusqu'à aujourd'hui ont des grandes cheminées à feu ouvert, n'est-ce pas, où on brûle des grosses bûches avec de la braise. Et alors, eh bien, l'amusement favori, n'est-ce pas, des dragons, consiste à déchausser leurs hôtes et leur mettre les pieds sur les braises ardentes dans le feu, n'est-ce pas, jusqu'à ce qu'évidemment, n'en pouvant plus, eh bien, les malheureux soient prêts à signer tout ce qu'on voudra. Imaginez-vous ce que ça peut représenter. Si jamais ils s'obstinent un peu, ben, après leur avoir ainsi chauffé les pieds, on les fait courir. Alors vous imaginez ce que ça représente que de courir avec la plante des pieds brûlés sur des braises rougies au feu. On peut varier tous les plaisirs. Alors là, il y en a qui ont de l'imagination, beaucoup d'imagination. Par exemple, n'est-ce pas, l'hiver, prendre l'hôte ou l'hôtesse, n'est-ce pas, la suspendre à la corde, n'est-ce pas, qui fait remonter l'eau du puits, puis les descendre jusqu'au ventre dans l'eau du puits, les laisser mijoter là quelques heures, n'est-ce pas, dans le froid de l'hiver, dans la glace, et puis les remonter au petit matin pour savoir s'ils sont prêts à abjurer. En général, au bout d'une nuit passée comme ça, avec de l'eau à mi-ventre, s'ils en réchappent, ce qui n'est pas toujours le cas, bien entendu, eh bien, ils sont prêts à signer tout ce qu'on veut, hein. Autre plaisanterie aussi très prisée, n'est-ce pas, de ces messieurs les dragons, traîner les femmes par les cheveux, soit directement, plusieurs qui s'y mettent, soit aussi les attacher à la queue d'un cheval, et puis faire galoper le cheval avec la femme attelée derrière, sous les yeux du mari, bien entendu. Ça a tendance, n'est-ce pas, tant d'un côté, tant du côté du mari que de la femme, d'assouplir leur position et leur conviction religieuse, n'est-ce pas. Le mari voyant sa femme ainsi traîner dans ces conditions-là, en général, tendance à signer à peu près aussi tout ce qu'on lui demande. Donc, il y a aussi, alors, malgré les interdictions, bien entendu, on s'en doute, des viols, n'est-ce pas ? Les officiers savent qu'il y a des viols, on fait comme si ça n'existait pas, n'est-ce pas ? Et au point où on en est, les choses vont ce qu'elles vont, n'est-ce pas ? On s'en prend aux enfants, devant les parents, on les fouette, on les bat, bien entendu, ne parlons pas des biens, on casse tout. On boit, c'est pas tout ce que le paysan a de réserve. On mange, on festoie, on banquette, on lui vole son argent, son or, on fouille dans tout, on met le feu à la literie, aux meubles, etc. Voire quelquefois à la maison, quand vraiment y a rien à tirer, on a affaire des opiniâtres, on met le feu à la maison, puis on chasse les. On cite le cas, n'est-ce pas, d'une femme enceinte, n'est-ce pas, qui est accouchée justement le soir où elle a reçu les dragons. C'était un soir d'hiver, n'est-ce pas, et les dragons l'ont mise dehors. Elle a accouché dehors, toute seule, n'est-ce pas. Le mari étant enfermé à l'intérieur, elle s'est débrouillée toute seule à accoucher sur le perron de sa maison par un gel terrible, n'est-ce pas. Il semblerait que malgré les conditions dans lesquelles les choses se sont passées, tant l'enfant et la mère qui aient survécu à ce traitement inhumain, enfin, c'est quelque chose, évidemment, on peut l'imaginer, tout à fait exceptionnel. Alors, une autre manière aussi de faire, c'est d'enfumer les gens, hein. Alors, si on les brûle pas, on fait un feu de broussailles sèches, de broussailles humides, n'est-ce pas, qui dégage une fumée épouvantable, et on met le nez des braves gens, n'est-ce pas, sur ce feu de broussailles jusqu'à ce qu'ils suffoquent, n'est-ce pas, ils étouffent, ils asphyxient. Ou alors aussi, une autre manière de faire, c'est de les priver de sommeil. On fait un bruit épouvantable, on se relaie, n'est-ce pas, à plusieurs pendant la nuit. Il y a des, comme quand les soldats montent la garde, hein, il y a deux pas de deux heures en deux heures, on se relaie au chevet des autres pour les empêcher de dormir, pour chanter à leurs oreilles, pour faire du bruit. Puis dès qu'ils ont malheur de s'assoupir, on les réveille à grands coups de pied, de coups de poing, etc. Et pendant plusieurs nuits ainsi, ou au bout de plusieurs nuits, eh bien forcément, c'est exactement ce qui se passait dans les prisons communistes, hein. Eh bien les gens, en fin de compte, deviennent fous et puis signent à peu près tout ce qu'on veut. Donc, au bout de quel. Alors, le but de ces dragonnades, alors, ça s'accompagne aussi avec des impôts spéciaux. les malheureux qui ont reçu les dragons doivent payer les frais occasionnés par les dragons. Tout est à leur charge. Si les dragons, par exemple, ont besoin de vivres qu'ils ne trouvent pas dans l'autre, puis ils ne s'en privent pas, bien entendu, ils vont acheter chez les catholiques à prix fort dans un certain nombre de choses, n'est-ce pas ? Eh bien, tout ça, c'est facturé à celui qui a reçu les dragons, puis alors avec des taxes considérables, tant et si bien que si quelqu'un en réchappe, eh bien, il est ruiné. Il est ruiné complètement parce que tout a été non seulement détruit par les dragons, mais enfin, il a des dettes pour le restant de ses jours, pratiquement, au trésor royal, au fisc. Alors, on comprend que très vite, n'est-ce pas, cette méthode de mission provoque en Poitou une véritable terreur. Et les conversions pleuvent en masse. On n'attend même plus que la troupe des dragons arrive dans un village. Dès qu'on apprend qu'une troupe de dragons se dirige vers tel et tel village, en général, tous les habitants abjurent en masse et demandent avec instance, n'est-ce pas, que les dragons fassent un détour et s'orientent vers un autre village. Alors, le but est celui-là. Effrayer, première chose. Deuxièmement, ruiner les terroirs protestants. Et puis, deuxièmement, contraindre. Contraindre les récalcitrants. Par exemple, dans le secteur compris entre, dans le triangle entre Saint-Sauvent, justement, Lezay et Coué, eh bien, les dragons vont rester 3 semaines. 3 semaines dans ce secteur-là. Curieusement, d'ailleurs, ils ne viendront pas à Coué. Et en l'espace de 3 semaines, ils obtiendront des milliers de conversions. Ce que ni les missionnaires classiques n'avaient obtenu, ni les caisses de conversion, ni les enlèvements d'enfants, ni quoi que ce soit, les dragons l'obtiennent en 3 semaines. Parfois, d'ailleurs, on inscrivait sur les listes d'abjuration des gens qui n'avaient pas abjuré. Alors, si vous voulez, ceux qui abjuraient le faisaient, bien entendu, dans la terreur qui était légitime et qu'on peut comprendre, et puis aussi avec une arrière-pensée, se disant que finalement, signer un papier, ça n'engageait finalement pas grand-chose et que l'orage passé, les dragons partis, ils allaient revenir à leur ancienne foi. C'était un calcul tout à fait faux, tout à fait erroné. Parce que, selon le droit canon catholique, n'est-ce pas, à partir du moment où ils étaient donc officiellement convertis à l'Église catholique, et donc où en même temps ils étaient rebaptisés, parce qu'à cette époque-là, on ne considérait pas le baptême protestant, même baptême d'enfant, comme valable, on les rebaptisait. Donc à partir du moment où ils avaient été rebaptisés, ou tout simplement à partir du moment où ils étaient inscrits sur les listes d'abjuration, ils étaient considérés comme nouveaux catholiques. Et le curé avait pour charge de veiller à ce qu'ils soient ponctuels à la messe du dimanche. Il les pointait, n'est-ce pas ? Et si jamais ils manquaient, eh bien, il fallait qu'ils aient une raison valable, sinon alors, ils étaient dénoncés à l'autorité. Et quand ils étaient dénoncés à l'autorité, comme étant revenus à leurs anciennes erreurs, si on se rendait compte qu'ils se mettaient à nouveau à pratiquer le culte protestant, alors ils étaient, selon le droit canon, considérés comme relapses. Ça veut dire des gens qui sont retombés dans leurs erreurs dernières, et le crime de relapse, au point de vue du droit canon, est un des crimes les pires qui soient, car précisément c'est dans ce cas seulement, qu'on peut encourir des peines alors temporelles pouvant aller jusqu'au bûcher. Ça n'allait pas toujours jusque-là. On pouvait d'ailleurs se réconcilier à nouveau. Certains ne s'en privaient pas, c'est pas, ils s'abjuraient une deuxième fois, puis ils retournaient, puis une troisième fois, une quatrième fois. Ça, le manège pouvait durer un certain temps comme ça. Bon, jusqu'au moment, c'était un petit jeu de chat et la souris, si vous voulez. Et en même temps, vous comprenez bien qu'il y avait un autre élément qui entrait en ligne de compte, malgré tout, chez ceux qui abjuraient de cette manière-là, même si j'ose dire pour la forme, avec des arrière-pensées, c'était des gens qui se sentaient culpabilisés, profondément culpabilisés, et qui donc étaient dans une position de profond malaise. Et on verra précisément qu'à la génération suivante, cette situation fausse, en quelque sorte, va avoir des conséquences extrêmement graves. Maintenant, si vous voulez, cette situation va perdurer pendant tout un certain temps, et notamment au Poitou, Marcillac va être remplacé alors par un terrible bonhomme qui va être le persécuteur du Poitou, qui va être l'intendant Baville, qui d'ailleurs ensuite se rendra en Languedoc avec la même sinistre réputation. Et la situation va empirer pendant quelque temps. Et puis brusquement, brusquement, n'est-ce pas, aussi soudainement qu'elle avait commencé, la dragonnade cesse. Elle cesse en particulier quand elle arrive à la hauteur de Châtellerault, donc dans le nord du département de la Vienne. Et pour vous montrer ce que, si vous voulez, les traces que la dragonnade a laissées jusqu'à nos jours, dans le village de Saint-Sauvent, qui a été un des premiers à être dragonné, comme je disais il y a un instant, dernièrement, des historiens ont fait des recherches, alors que le village maintenant est en majorité catholique, alors qu'il était entièrement protestant dans ces années-là, à la fin des années 70. Des historiens ont fait des recherches et ont montré pratiquement que tous les habitants du pays ont des ancêtres protestants. Et alors, des recherches très approfondies ont été faites, n'est-ce pas, sur l'histoire du village de Saint-Sauvent. Une petite plaquette a été publiée il y a déjà un certain nombre d'années. Eh bien, curieusement, n'est-ce pas, presque aucun des habitants catholiques de Saint-Sauvent n'a acheté cette plaquette. Ça ne les intéressait pas. Ou plus exactement, il y avait une espèce de crainte, si vous voulez, de retrouver ses origines. Il y a un passé, il y a une histoire qu'on ne veut pas connaître. Une histoire dont on est honteux jusqu'à maintenant, des générations plus tard, alors que même un certain nombre d'entre eux, n'est-ce pas, ignoraient qu'ils avaient des ancêtres protestants. Mais si vous voulez, une espèce de datavisme qui fait que là, on ne veut pas savoir. Hein. Il y a cette espèce de sentiment de culpabilité qui reste jusqu'à nos jours dans cette région-là, alors que pour beaucoup de gens, n'est-ce pas, ils sont complètement déchristianisés, tant aussi bien du côté protestant que du côté catholique, mais, si vous voulez, ils ont gardé cette espèce de mauvaise conscience qui s'est transmise inconsciemment de génération en génération jusqu'à nos jours. Maintenant, le clergé, bien entendu, se réjouit de la dragonnade, c'est une aubaine formidable pour lui. Il y prend une part active, les curés sont sur les traces des dragons, prêts à recevoir les abjurations au moment où elles tombent de la bouche des malheureux qu'on torture de cette manière-là. Et puis, surtout, n'est-ce pas, c'est quelque chose que on essaye soigneusement de cacher. De cacher aussi de l'opinion, parce que, quand même, on n'est pas trop trop fier de cette méthode-là. Et puis deuxièmement, parce que peut-être que si ça se savait à l'étranger, l'honneur de la France pourrait en pâtir. Et c'est bien ce qui se passe. Car malgré toutes les précautions prises, les nouvelles justement de cette dragonnade parviennent aux oreilles des puissances étrangères. Parce que quoi qu'il en soit, un certain nombre de gens parviennent quand même à s'échapper et s'empresse de fuir le pays. Bon, le pays qui est le plus proche du Poitou, c'est l'Angleterre, n'est-ce pas? Et par conséquent, un certain nombre de dragonnés fuient en Angleterre. Et là, ils racontent ce qui se passe. En Angleterre, c'est la consternation, n'est-ce pas? Lorsqu'on apprend cette tragédie épouvantable et sanglante, n'est-ce pas? Une telle barbarie, n'est-ce pas, retour à la barbarie la plus primitive, n'est-ce pas, provoque sur l'opinion anglaise un choc terrible. Et l'Angleterre fait une pression, n'est-ce pas, sur la cour française en demandant que cette tragédie s'arrête. Et précisément, si la dragonnade s'arrête brusquement, aussi brusquement qu'elle a commencé, c'est parce qu'il y a eu essentiellement intervention diplomatique de l'Angleterre. Malgré tout, n'est-ce pas, cette année-là, 1681, on note 38 000 convertis comme résultat de la dragonnade. C'est donc un succès. Et le 17 juin 1682, conséquence de cette dragonnade, on ordonne de détruire les temples des villages où les gens se sont convertis. Puisqu'il n'y a plus de protestants dans ces villages, il n'y a plus de raison qu'il y ait des temples, et on donne l'ordre qu'ils soient démolis. Et puis on se ravise en se disant que peut-être ça aussi, ça peut être mal pris à l'étranger. On se contente de faire fermer les temples, et puis de ne laisser rentrer finalement que des gens qui n'ont pas abjuré, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Des héros, bien entendu, qui ont tenu ferme devant toutes les attaques. Bon, une chose aussi, c'est que parfois, dans un couple, un abjure et l'autre pas. Ça, c'est une tragédie. Parce que conséquence de cette situation-là, au nom du fameux privilège paulin, entre guillemets. Vous savez, les catholiques interprètent le texte où il est écrit, n'est-ce pas, que dans le texte de Paul, n'est-ce pas, que si quelqu'un a une femme inconvertie ou un mari inconverti, eh bien, que l'autre ne veut pas résider avec lui, etc., il se sépare. Bon. Alors, dans ce cas-là, si c'est pour une question de religion, dit le droit canon jusqu'à aujourd'hui, le droit canon catholique, n'est-ce pas, si pour une question de religion, les époux se séparent, dans ce cas-là, le divorce est légitime et le remariage aussi. Donc, là, on ne demande pas si les gens veulent se séparer ou non, mais du moment qu'un des conjoints n'a pas abjuré, eh bien, le mariage est cassé d'autorité par le curé du lieu, n'est-ce pas ? Et non seulement le malheureux, n'est-ce pas, qui a abjuré, a perdu ses biens, a perdu sa foi, a perdu son honneur, mais en général, il perd son conjoint. Hein, il perd son conjoint en plus. Alors, vous voyez, le niveau de tragédie qu'a été cette épouvantable manière, n'est-ce pas, d'agir de ce roi soleil, comme on l'appelait à cette époque-là. Par exemple, à Poitiers, le temple dit des quatre piquets, qui était le premier temple, est démoli comme conséquence aussi de ces dragonnades-là. Alors donc, il y a cérémonie de baptême. Et puis, dans un premier temps, donc, aussi, il était interdit de dragonner les nobles protestants. C'était simplement les gens du peuple qui avaient droit à ce traitement inhumain et dégradant. Mais dans un deuxième temps, en fin de compte, on finira aussi par dragonner les nobles eux-mêmes, ce qui est un comble. Un certain nombre de nobles n'attendent pas d'être traités de cette manière-là. Et par exemple, le 7 avril 1685, Olivier de Vérac, marquis de Coué, se convertit au catholicisme contre une somme d'argent, une forte somme d'argent, et puis contre un brevet de lieutenant général du Poitou. Et cette même année, en effet, il avait senti le vent, certainement, ce brave marquis de Vérac, car la même année, le 20 août 1685, une deuxième série de dragonnades donc, va commencer en Poitou, essentiellement dans le secteur de Saint-Mexan, Pamproux, etc. Et ça va être le point de départ d'une nouvelle émigration clandestine. Le but, évidemment, de cette deuxième dragonnade, on s'en doute bien, c'était de préparer l'édit de révocation de l'édit de Nantes, l'édit de Fontainebleau, qui donc entrera en vigueur en octobre de la même année, donc de vider en quelque sorte le pays des derniers protestants qu'on croyait encore s'y trouver. Et c'est donc en octobre de cette année-là que l'édit de Nantes va être abrogé. Maintenant, comment, si vous voulez, idéologiquement, en est-on venu à de semblables abominations ? Je crois que c'est une question qu'il vaut la peine de se poser. La première chose, nous l'avons vu, c'est l'influence des partis catholiques. Le parti dévot, la cabale des dévots, qui était l'héritier, en fin de compte, de la Ligue du siècle précédent. La Compagnie du Saint-Sacrement, fondée en 1767, qui luttait pour des mesures sociales, qui luttait également aussi contre la déviation sexuelle, sauf celle de la cour, bien entendu. Ça, on se gardait bien de toucher là-bas à la manière dissolue de vivre de la cour royale. D'ailleurs, le roi finit par voir d'un mauvais œil cette compagnie du Saint-Sacrement, pour deux raisons. D'abord, parce que quand même, il l'a trouvé un peu trop rigoriste sur le plan moral, et bon, Louis XIV... on ne peut pas dire qu'il était un parangon de vertu. Et puis, deuxièmement, parce que Louis XIV, qui était jaloux de son absolutisme, trouvait qu'une telle organisation un peu secrète, n'est-ce pas, risquait de lui faire un peu de l'ombre. Donc, il l'a dissous, en fin de compte, quelques années plus tard, comme une faction dangereuse. Alors, il y a aussi un autre élément à cette époque-là, c'est que le catholicisme français, nous avons l'occasion de le voir, n'est pas exempt non plus de division. Il y a deux grands problèmes qui agitent le catholicisme français à cette période-là. Le premier, c'est ce qu'on appelle la querelle du gallicanisme, dont Bossuet pas, sera le champion, l'évêque Bossuet, et qui préconise une sorte, si vous voulez, une indépendance de l'Église de France par rapport à Rome, calquée, si vous voulez, un petit peu sur ce qui s'était passé en Angleterre, l'Église d'Angleterre, à savoir que le roi de France, en fait, est le véritable chef de l'Église de France. Bien entendu, ça va dans, tout à fait dans le sens de l'absolutisme de Louis XIV, qui va prendre feu pour Bossuet dans ce domaine-là, mais sans aller jusqu'à une rupture totale avec Rome, comme c'était le cas pour l'Église d'Angleterre. On comprend bien, évidemment, que de l'autre côté des Alpes, la chose n'est pas bien perçue, d'autant que l'on craint une deuxième, justement, un deuxième schisme à l'image du schisme anglais. Et pendant toute la durée du règne de Louis XIV, n'est-ce pas, la querelle gallicane, comme on va l'appeler, va faire rage entre la cour de France et puis donc les prélats qui gravitent dans la cour de Louis XIV, et puis donc la papauté à Rome. La deuxième querelle qui divise l'Église catholique française à cette époque, c'est le jansénisme. Le jansénisme, là aussi nous aurons l'occasion de revenir sur le jansénisme plus en détail, c'est un mouvement comme il en existe dans l'Église catholique qui naît dans le cadre du monachisme et qui est la reprise d'ailleurs d'une doctrine qui n'est pas le fait d'un Français mais d'un Hollandais, un certain Jansénus, et qui va être adopté par un couvent célèbre, qui va devenir célèbre dans les environs de Paris, Port-Royal, dont la supérieure Angélique Arnaud et son frère, n'est-ce pas, vont adopter les vues de Jansénus, et qui est en quelque sorte, qui n'est pas totalement étranger, si vous voulez, au calvinisme. Hein, il y a une grande insistance sur la grâce, sur la prédestination, on a l'occasion d'y revenir, et finalement, c'est aussi un mouvement qui se veut une sorte de mouvement réformateur de l'Église catholique, mais réformateur de l'intérieur. Et précisément pour éviter toute accusation d'hérésie et de schisme, les jansénistes, comme on va les appeler, n'est-ce pas, vont fortement protester de leur attachement à l'Église catholique d'une part et de leur horreur, n'est-ce pas, des réformés d'autre part. Quand on met à part, n'est-ce pas, ces protestations, je dirais politiques entre guillemets, n'est-ce pas, compréhensibles dans le contexte, on se rend compte que finalement le mouvement de la réforme du XVIe siècle, le mouvement janséniste, ont finalement de grands points communs. Ils sont finalement très proches. D'ailleurs, le jansénisme finira par être déraciné, détruit, n'est-ce pas ? Le monastère de Port-Royal sera rasé sur ordre du roi Louis XIV. Et si vous voulez, il va y avoir là un mouvement de réforme qui va être avorté, comme la plupart des mouvements qui sont à l'intérieur de l'Église catholique, n'est-ce pas ? L'Église catholique est pratiquement irréformable de l'intérieur. C'est l'illusion qu'ont eu un certain nombre de gens, dont justement les jansénistes. Mais l'Église catholique française, au XVIIe siècle, va être profondément marquée par le jansénisme. La figure de proue sur le plan théologique du jansénisme, le plus connu, n'est-ce pas, c'est Blaise Pascal, philosophe et savant, n'est-ce pas, qui va être le champion du jansénisme contre les jésuites qui vont en être alors les adversaires les plus acharnés. Et notamment, Blaise Pascal va être un redoutable polémiste contre les jésuites et il va écrire donc une série de lettres dans un ouvrage, n'est-ce pas, qui s'appelle « Lettres d'un provincial » dans lesquels il ridiculise les jésuites. Et les provinciales de Pascal ont fait plus pour réduire l'influence des jésuites que toutes les autres mesures qui ont pu être prises, n'est-ce pas ? Et jusqu'à aujourd'hui, l'épithète jésuite, à la suite justement des écrits de Blaise Pascal, est restée presque comme synonyme un peu de pharisien, quoi. D'autres jansénistes importants, n'est-ce pas, c'est Gaston... Racine, son prénom, comment c'était ? Jean Racine, le grand homme de théâtre, n'est-ce pas, qui, après avoir vécu une vie de débauche dans ses premières années où il était écrivain de théâtre, n'est-ce pas, notamment se spécialisant dans la tragédie, eh bien, dans son âge mûr, se convertit au jansénisme et va écrire des pièces de théâtre à connotation spirituelle, notamment les deux plus célèbres, Athalie et Esther, n'est-ce pas, inspirées de la Bible. D'autres tragédies profanes vont être marquées par l'influence janséniste qui est la sienne, mais Racine sera de cela. Et alors, un historien ultérieur a pu écrire du siècle de Louis XIV, le grand siècle comme on l'appelle, c'est-à-dire le XVIIe siècle essentiellement, il a pu écrire à peu près ceci: ce siècle fut chrétien, mais il fut janséniste. C'est très intéressant comme réflexion, c'est Michelet qui a dû dire ça, je pense. Et c'est très intéressant comme réflexion parce que ça veut dire deux choses. Chrétien, parce qu'effectivement, il y avait au XVIIe siècle, nonobstant toutes les différentes tendances religieuses, la grande diversité religieuse du XVIIe en fin de compte, hein, tant du côté catholique que protestant, parce que c'est pas, le catholicisme donne toujours l'illusion d'une unité sans faille. En fait, ça n'a jamais été vrai. Jamais le catholicisme n'a été uni, mais par contre, ce qui fait son unité, c'est le juridisme. Le juridisme, n'est-ce pas, qui finalement donne l'illusion d'une unité. Mais si vous voulez, sur le plan spirituel, le catholicisme est profondément désuni. Au moins aussi désuni, n'est-ce pas, que l'est le protestantisme. Donc, si vous voulez, le XVIIe siècle était un siècle d'une grande effervescence religieuse, d'une grande ferveur religieuse. Et les questions religieuses étaient à l'ordre du jour. Les gens se préoccupaient des questions religieuses, souvent très mal. Mais si vous voulez, si on compare le XVIIe siècle à notre siècle, c'est une mentalité tout à fait différente. Aujourd'hui, les questions religieuses n'intéressent plus personne, ou un petit nombre de gens seulement. Mais vous ne verrez pas les gens aujourd'hui discuter de questions religieuses autour d'une tasse de café. Ça, c'est impensable. Voilà. Voyez, pour la plupart des gens, n'est-ce pas, rien que prononcer le nom de Dieu, c'est quelque chose qui leur écorche la bouche, si ce n'est pour blasphémer, n'est-ce pas? Mais au XVIIe siècle, non, c'est la préoccupation des gens. La préoccupation des gens. C'est extraordinaire, c'est comme ça. Donc, siècle chrétien, mais janséniste. C'est-à-dire, dans la pensée d'un Michelet, n'est-ce pas, qui n'est pas quand même un catholique fanatique, c'est le moins qu'on puisse dire, hérétique, n'est-ce pas, le siècle des hérésies. Hérésie janséniste, mais hérésie huguenote aussi, n'est-ce pas, c'est tout ça, et tout un contexte d'hérésie. Alors, les divisions du catholicisme rassurent les huguenots. Ils se disent, si les catholiques se battent entre eux, ils vont nous laisser tranquilles. C'est un petit peu, vous savez, comme les Romains d'Astérix, n'est-ce pas, qui ont la paix lorsqu'ils voient les Gaulois qui se battent entre eux. Seulement, c'est mal connaître le catholicisme. Et ce n'est pas parce qu'il est désuni que le catholicisme va se désintéresser des protestants. Les huguenots s'imaginent que les mesures vexatoires dont ils sont l'objet ne sont que des rejets passagers. Et c'est là leur grande erreur d'analyse. Ils ne se rendent pas compte que le XVIIe siècle est un siècle justement de renouveau du catholicisme. On l'a appelé aussi le siècle des saints. Et finalement, si vous voulez, il va y avoir, dans la deuxième partie du siècle, une véritable version française de la contre-réforme. Et alors que, si vous voulez, la contre-réforme, un siècle plus tôt, avait eu comme théâtre principal le sud de l'Europe, l'Italie et la péninsule ibérique, avec la célèbre Inquisition. Maintenant que le sud de l'Europe tombe en déclin, notamment l'Espagne, c'est la France qui reprend le flambeau. La France qui revient le phare de la civilisation, la plus grande puissance politique de l'heure, n'est-ce pas? Plus grande puissance militaire aussi, et puis plus grande puissance culturelle. La France devient, si vous voulez, le paradis de la culture mondiale. Les arts, les lettres, la peinture, la musique, la littérature, tout ça fleurit, n'est-ce pas, la cour, l'architecture, n'est-ce pas, avec Versailles, avec les grandes réalisations de Louis XIV, la sculpture, etc. Enfin, c'est le phare vers lequel on accourt de l'Europe entière, n'est-ce pas? pour la culture. Et en même temps, n'est-ce pas, c'est aussi le pays qui reprend, si vous voulez, le flambeau de la lutte religieuse, qui reprend aussi des mains de l'Espagne et de l'Italie. Enfin, les siècles précédents, c'était le siècle de la Renaissance italienne, et là maintenant, c'est en quelque sorte la poursuite du mouvement de la Renaissance, mais si vous voulez, à cause de la France, qui donne donc, si vous voulez, ce qu'on appellera le classicisme français. Fait d'équilibre, de bon sens, de courtoisie, de civilité, enfin tout ce qui... Et le français est la langue diplomatique, n'est-ce pas? On parle français jusqu'en Suède, n'est-ce pas? On vient pour apprendre le français, n'est-ce pas? La langue par excellence, quoi, hein, n'est-ce pas? C'est vraiment le temps de la gloire française. Alors, c'est la même chose sur le plan religieux. Le catholicisme français est en plein renouveau. Il est en plein renouveau, il a des ressources énormes, ressources en hommes, parce que nombreux sont ceux qui embrassent la carrière ecclésiastique. D'ailleurs, le pouvoir fait tout pour cela. Et puis, énormes ressources en argent. Les nobles font des donations, c'est pas en argent, en biens fonciers, etc. Et comment voulez-vous que le petit protestantisme français puisse tenir en face de ce géant? Le catholicisme français est une puissance qui écrase tout, c'est pas. Or, précisément, le protestantisme français mesure mal le rapport des forces. Or, justement, les protestants français s'imaginent que grâce à Édith de Nantes, ils sont intégrés dans la société française. En fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont des Français un peu particuliers. Comme le disait le doyen Carbonnier, n'est-ce pas, d'étranges étrangers. On ne les considère pas comme de véritables Français. Les nobles huguenots ne peuvent plus les défendre, comme bien même le voudraient-ils. Souvent, d'ailleurs, ils sont eux-mêmes séduits par l'apparat de la cour, n'est-ce pas, servant les intérêts du roi. Deuxièmement, les nobles, Louis XIV a réussi ce tour de force de briser leur puissance, quel qu'il soit. La noblesse n'est plus qu'à la botte du roi. L'absolutisme, c'est le triomphe de l'absolutisme. Et les nobles huguenots n'échappent pas à la règle. Ils sont aussi très, comment dirais-je, très mondanisés. Ils fréquentent les théâtres, les carnavals, les danses, les jeux de hasard. Et parler de l'austérité protestante, vous savez, c'est un petit peu un mythe. L'austérité protestante, dans la France du XVIIe siècle, ça n'existe pas. Les huguenots sont loin d'être austères, même si c'est vrai que proportionnellement, si vous voulez, à la majorité catholique, il y a en général parmi les huguenots peu de délinquance. Et puis, un deuxième élément aussi, c'est qu'il y a une diaconie, une entraide très développée entre eux, comme c'est souvent le cas d'ailleurs, dans les minorités. Deuxième élément qui rassure les huguenots, les réformés, c'est qu'au niveau populaire, il y a une coexistence pacifique entre catholiques et protestants qui s'est instaurée. Depuis 1588, finalement, dans les masses, c'est le statu quo. Ni d'un côté ni d'autre, on n'essaie plus de faire de prosélytisme. Même au sein des familles, il y a des familles dont une branche est protestante, l'autre branche est catholique. Bah, ma foi, on s'entend très bien quand même. N'est-ce pas ? Au niveau populaire, ça marche. Il y a un œcuménisme de fait qui existe, qui n'est pas tout à fait étranger aussi du côté de la population catholique, par exemple, à un anticléricalisme de beaucoup qui commence à poindre. Et puis, les mariages mixtes entre protestants et catholiques ne sont pas rares non plus, n'est-ce pas ? Tant et si bien que, en fin de compte, au niveau populaire, les choses se passent très bien. En ce qui concerne les élites sociales, la coexistence existe aussi. Bien que les relations soient plus tendues, d'une manière générale, plus on monte dans la hiérarchie, Et plus on monte haut, plus la coexistence pacifique a tendance à s'effriter, si j'ose dire. En fait, cette coexistence tient aussi à un fait, c'est pas, dont nous souffrons jusqu'à aujourd'hui. C'est que finalement, au niveau des masses, il y a un désintérêt pour le protestantisme. Une tolérance, mais qui est faite d'ignorance, de méconnaissance, de la spécificité protestante, qui n'intéresse pas, qui n'intéresse plus. Un siècle plus tôt, ça intéressait. Maintenant, dans le grand siècle, non, n'est-ce pas, ça n'interpelle plus les gens. C'est du déjà vu, on connaît ça, n'est-ce pas ? Ou du moins, on croit connaître, n'est-ce pas ? Mais en fait, on ne connaît que très superficiellement, et on ne cherche pas à connaître. Et puis, précisément, comme on l'a déjà noté, à cause des guerres de religion, il y a un autre élément qui entre dans l'esprit des masses, c'est le scepticisme en matière de religion. Même si on est encore préoccupé par les questions religieuses, n'est-ce pas ? Il y a une nouvelle tendance qui commence à naître et qu'on appelle le mouvement des libertins à cette époque-là, n'est-ce pas ? C'est essentiellement un mouvement qui intéresse les élites culturelles. Finalement, les libertins ne sont rien d'autre que des athées. Des gens qui vivent donc, comme ils le disent, dans la liberté des mœurs en particulier. Bon, c'est très mal vu dans cette époque-là. C'est très mal vu, ça peut même d'ailleurs conduire à des problèmes graves. Mais, dans la mesure où la Cour elle-même donne l'exemple d'un libertinage dans les faits, pas dans la doctrine, dans la doctrine on est d'une orthodoxie catholique absolue, commencée par le roi, dans les mœurs, dans les faits, n'en parlons pas. N'en parlons pas. Hein. Les maîtresses du roi changent, n'est-ce pas, comme de chemise de roi. Hein. La première, Mademoiselle de la Vallière, n'est-ce pas, dont il aura plusieurs bâtards. Il y a une institution spéciale créée pour élever les bâtards, les nombreux bâtards du roi, parce qu'il en aura. Hein. Quelque temps plus tard, la Vallière tombe en disgrâce au profit d'une marquise, la marquise de Montespan, qui est mariée. Pas, Mademoiselle de la Vallière l'est aussi d'ailleurs. Elle s'appelle Mademoiselle, non pas parce qu'elle est célibataire, mais parce qu'elle n'est pas noble. Hein. Mademoiselle est un titre qui implique une basse extraction, tandis que le titre de Madame, à l'époque classique, n'est-ce pas, implique que l'on est d'origine noble, c'est tout, n'est-ce pas. Bon, le marquis de Montespan, n'est-ce pas, quand il se voit trompé par le roi, a la mauvaise grâce de faire du chambard. On lui fait comprendre que s'il ne veut pas se retrouver à la Bastille, il vaudrait mieux qu'il se tienne tranquille et qu'il accepte l'adultère de sa femme. Bon, il se le tient pour dit et il se console de son côté, ce qui n'est pas difficile à la cour du roi. N'est-ce pas ? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Jusqu'au jour, n'est-ce pas, où le roi, donc, s'énamourage de Madame de Maintenon, qui n'est plus de prime jeunesse, n'est-ce pas ? Juste au moment, d'ailleurs, où sa femme, la reine Marie-Thérèse, infante d'Espagne, qu'il avait épousée contre son gré, a le bon gré, le bon goût, n'est-ce pas, de mourir, de chagrin, vraisemblablement. 5 jours après, n'est-ce pas, Madame de Maintenon se retrouve dans le lit du roi, n'est-ce pas, sans être mariée. Madame de Maintenon, qui défend à l'orthodoxie catholique mordicus, n'est-ce pas, elle n'en est pas à ça près, n'est-ce pas. Bon, elle finira quelques mois plus tard à convaincre le roi à l'épouser d'abord secrètement, puis ensuite ce sera officiellement, n'est-ce pas ? Enfin, voilà le roi, n'est-ce pas ? Voilà la cour, et tout le monde est à l'avenant, n'est-ce pas ? Donc, automatiquement, il y a, n'est-ce pas, cette liberté des mœurs qui naît en France, n'est-ce pas ? Le libertinage, hein, et qui s'accompagne aussi, n'est-ce pas, chez les plus audacieux, d'une remise en question des dogmes religieux, dont dans les faits, on ne fait plus aucun cas. Et puis, ce libertinage s'accompagne alors d'un autre mouvement qui est le cartésianisme, un mouvement philosophique cette fois-ci. Le cartésianisme, qui a pour origine, comme son nom l'indique, le philosophe Descartes, et qui a pour base, n'est-ce pas, le doute systématique. qu'est-ce que c'est que le doute systématique ? Eh bien, c'est une position philosophique à partir de laquelle on doute de tout a priori, aussi longtemps qu'il n'y a pas une démonstration rationnelle, n'est-ce pas ? Parce que nous sommes au siècle de la raison, n'est-ce pas ? Le rationalisme français, le cartésianisme, n'est-ce pas ? Et en même temps, le classicisme français, n'est-ce pas ? C'est le raisonnement, le bon sens, n'est-ce pas ? La construction intellectuelle harmonieuse, n'est-ce pas ? Comme le château de Versailles, par exemple, ou comme l'est une tragédie de Racine. Hein ? Alors, si vous voulez, c'est le même esprit. Alors, Descartes est un homme qui commence à mettre en doute finalement tout, n'est-ce pas ? Bon, est-ce que le monde qui est autour de moi existe ? Peut-être vous n'avez jamais posé la question. Descartes se l'est posé. Il se dit, mais oui, il existe, bien sûr. Je touche la table, je vois de mes yeux, je vous vois là, vous êtes tous là, et les murs, ils sont là, la maison, la lumière, je vois ces choses-là. Hein ? J'entends quand les bruits, n'est-ce pas, quand vous parlez, etc. Oui, dit Descartes, mais si mes sens me trompaient, si ma vue me trompait, si mon toucher me trompait, si mon oreille me trompait, et si finalement toutes les sensations qui parviennent à mes sens n'étaient que des illusions, et que finalement le monde qui est autour de moi n'existe pas, qu'est-ce qui me prouve que c'est pas comme ça ? Ah, ben oui. Bon, puis continue. Et moi, il dit, est-ce que j'existe ? Est-ce que j'existe ? Est-ce que j'ai pas l'illusion d'exister ? Et puis soudain, c'est pas, il est là dans le désarroi, il raconte ça, hein, dans le discours de la méthode. Et puis soudain, un trait de génie. Il est là devant son poêle, il est en Hollande à cette époque-là. Pas devant son poêle, là-bas. Et puis soudain, un trait de génie, n'est-ce pas ? Cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Ça, c'est irréfutable. Là, c'est une chose que je ne peux pas mettre en doute, je pense. Donc, à un degré ou à un autre, il y a quelque chose qui existe. Et à partir de cette affirmation de base, il reconstruit tout. Il reconstruit tout. Alors, on se rend compte qu'une telle démarche d'esprit, ça peut mener extrêmement loin. Et Descartes est le premier à s'en rendre compte, à une époque où il y a un certain nombre de tabous auxquels il vaut mieux pas toucher. Et ces tabous-là, bien entendu, c'est essentiellement la religion. Catholique s'entend. Alors Descartes, dans son discours de la méthode, se garde bien d'appliquer cette méthode de doute systématique, de doute philosophique, à la religion. Il dit que la religion, c'était en dehors de ça, parce que c'est la révélation, ce sont les dogmes, etc. Donc, c'est tout simplement philosophique. Bon, c'est une précaution. Mais à partir du moment où il avait posé le principe du rationalisme, le principe précisément du doute philosophique, n'est-ce pas ? Eh bien, il est bien évident que ceux qui allaient venir après lui allaient appliquer cette même méthode à la religion, justement. Et ce sera le fait des philosophes du siècle suivant. Mais la démarche du doute philosophique de Descartes, n'est-ce pas, est une démarche typiquement française, qui naît dans ce contexte du grand siècle, n'est-ce pas ? Chrétien mais janséniste, comme on disait tout à l'heure, n'est-ce pas ? Et qui alors, s'alliant avec la liberté des mœurs, d'une part, puis le fait que, finalement, il va y avoir déconsidération des choses de la religion à cause des guerres de religion, justement, eh bien, en fin de compte, au siècle suivant, au XVIIIe siècle, la France va être à la tête de la croisade antireligieuse, n'est-ce pas ? Qui va secouer l'Europe jusqu'à nos jours et qui va culminer avec la Révolution française. La Révolution française qui sera une révolte antireligieuse qui commence avec Descartes, qui se poursuit avec les philosophes du début du XVIIIe et puis qui va exploser donc à la fin du XVIIIe et au début du XIXe avec la Révolution française. Alors, voyez-vous, ici, les fondements qui sont ceux de l'époque de Louis XIV en matière de religion, eh bien, vont avoir des conséquences, n'est-ce pas, extrêmement graves, à terme. En quelque sorte, les excès dans lesquels va se livrer Louis XIV vont conduire à un jugement qui va reposer jusqu'à aujourd'hui sur notre pays. Ça, il y a des choses qu'il faut comprendre aussi. Et vous, faire l'histoire de l'Église, l'histoire tout court, c'est comprendre à quels obstacles nous heurtons aujourd'hui. Ce n'est pas des obstacles qui sont nouveaux, hein, mais qui ont des racines beaucoup plus profondes. La France est jusqu'à aujourd'hui un des pays les plus déchristianisés, les plus ennemis de la foi de l'Europe tout entière, n'est-ce pas ? Ça tient à son histoire. Il suffit d'en juger avec la nouvelle querelle scolaire qui renaît périodiquement, n'est-ce pas ? Tous les 10 ans, on a une querelle scolaire. C'est idiot, c'est stupide. Mais voilà, c'est comme ça. Ça fait partie de la tradition française, n'est-ce pas ? L'esprit laïcard, qui est le résultat de tous ces courants-là, n'est-ce pas ? Et puis, n'est-ce pas ? Bon, un parti catholique qui reste, qui existe en France, qui fait partie du paysage français, qui est puissant, même si de plus en plus il est réduit et il est sur la défensive, parce que finalement, partout dans le monde, dans le monde occidental, en tout cas, les religions sont laminées, mais qui existe, n'est-ce pas ? Mais en face d'un courant donc libre penseur, libertin, comme on disait à cette époque-là, et qu'on appelle laïque aujourd'hui, mais finalement c'est la même chose, qui a pris naissance au siècle Louis XIV. Quoi. Alors pour eux, évidemment, le protestant est un hérétique, un blasphémateur. Il met en péril la communauté qu'il héberge. Et grâce, à cause des hérétiques plus exactement, la société se décompose. Et par conséquent, eh bien, il faut résoudre ce problème du protestantisme. Et résoudre ce problème, ça veut dire éliminer le protestantisme, ce que va essayer d'entreprendre Louis XIV. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus ? Tu me prêtes juste ton crayon ? Merci.